Chapitre 8. Contenant divers objets. Avant de revenir à M. Jones, nous ferons encore une visite à Sophie. Quoique cette jeune personne eût, par ses petits moyens adoucissants dont nous avons parlé, mis sa tante de très bonne humeur, elle n'avait pu parvenir à modérer son zèle pour Lord Fellamar. Ce zèle était encore enflammé par Lady Bellaston, qui lui avait dit le soir précédent qu'elle était très satisfaite de la conduite et des procédés de Sophie envers Milord, que tout délai serait dangereux, et que le seul moyen de réussir était de presser le mariage avec une telle célérité que la jeune personne n'eut pas le temps de réfléchir, et fut obligée de consentir, en sachant à peine ce qu'elle ferait. « C'est ainsi, disait-elle, que se termine la moitié des mariages parmi les gens de condition. » Fait très probablement vrai, et auquel il faut attribuer, je suppose, cette tendresse mutuelle qui subsiste par la suite entre tant de couples fortunés. Lady Bellaston avait à peu près fait entendre la même chose à Lord Fellamar, et tous deux embrassèrent son avis avec tant d'empressement qu'à la requête de Milord, le lendemain fut fixé par Mrs. Weston pour une entrevue particulière entre les jeunes gens. Ce projet fut communiqué à Sophie par sa tante, qui insista en termes si impérieux que la jeune personne, après avoir sans le moindre succès dit tout ce qu'elle put inventer pour qu'il n'eût pas lieu, finit par donner la plus grande preuve de complaisance qu'une jeune personne puisse donner et consentit à voir Milord. Comme les conversations de ce genre ne procurent pas un grand plaisir, on nous excusera de ne pas rapporter en entier tout ce qui se passa dans cette entrevue, dans laquelle, après que Milord eut fait 1000 déclarations de l'amour le plus pur et le plus ardent à Sophie, qui rougissait et gardait le silence, elle rassembla enfin le peu de force qui lui restait et dit d'une voix faible et tremblante, « Milord, vous devez juger vous-même si votre dernière conduite avec moi a été d'accord avec les protestations que vous me faites maintenant. » « N'y a-t-il donc, répondit-il, aucun moyen d'expier mon délire ? Ce que j'ai fait, je le crains bien, a dû vous convaincre trop clairement que la violence de mon amour m'avait privé de l'usage de ma raison. Eh bien, Milord, il est en votre pouvoir de me donner la preuve d'une affection que je me sentirais disposé à encourager et dont je vous serais très redevable. Quelle est-elle, madame ? Dit Milord avec beaucoup de chaleur. Milord, dit-elle, baissant les yeux sur son éventail, vous devez sentir combien cette passion que vous avez la prétention d'avoir pour moi m'a rendue jusqu'ici malheureuse. Pouvez-vous être assez cruel pour rappeler ainsi la passion que vous m'avez inspirée ? Oui, Milord, toute protestation d'amour faite à l'objet de nos persécutions est la plus insultante de toutes les impostures. Votre poursuite est pour moi la plus cruelle des persécutions. Je dirais plus, c'est prendre de la manière la moins généreuse avantage de ma malheureuse situation. Oh, la plus aimable, la plus adorable des femmes, ne m'accusez pas, s'écria-t-il, d'un procédé aussi peu généreux, car je n'ai d'autre pensée que celles qui ont pour but votre honneur et votre intérêt, et d'autres projets, d'autres espoirs, d'autres ambitions, que de mettre à vos pieds, moi, mes titres, ma fortune, enfin tout ce que je possède. Milord, dit-elle, c'est cette fortune, ce sont ces titres qui vous donnent sur moi cet avantage dont je me plains. Ce sont là les charmes qui ont séduit mes parents, mais ces charmes sont tout à fait sans pouvoir sur moi. Si vous voulez mériter ma reconnaissance, il n'y a qu'un moyen. Pardonnez-moi, divine créature. Tout ce que je peux faire en votre faveur vous est tellement dû et me procurera à moi un si grand plaisir qu'il n'y aurait aucun motif pour votre reconnaissance. Je vous assure, Milord, répondit-elle, que vous pouvez mériter ma reconnaissance, mon estime, et tous les souhaits pour votre bonheur qu'il est en mon pouvoir de faire. Je dis plus, vous pouvez les mériter sans peine, car il doit être sans doute facile à un cœur généreux de m'accorder ma demande. Souffrez que je vous conjure de cesser une poursuite dont vous ne pouvez espérer aucun succès. Je vous demande cette grâce autant pour l'amour de vous-même que pour l'amour de moi. Car sûrement, vous avez le cœur trop noble pour trouver quelque espèce de plaisir à tourmenter une malheureuse créature. Que vous proposez-vous, Milord ? Vous vous condamnez vous-même à une peine inutile, par une persévérance qui, sur mon honneur, sur le salut de mon âme, ne pourra rien gagner, ne gagnera assurément rien sur moi dans quelque malheur que vous puissiez parvenir à me plonger. » Ici, Milord poussa un profond soupir et dit « Est-il donc vrai, madame, que je sois assez malheureux pour être à vos yeux un objet de haine et de mépris? Ou me pardonnerez-vous de soupçonner que quelque autre ?» Ici, il hésita, et Sophie répondit avec assez de force « Milord, je ne suis point obligé de vous rendre compte de mes sentiments. Je vous rends grâce des propositions généreuses que vous m'avez faites. Je conviens qu'elles surpassent de beaucoup mon mérite et mes espérances. J'espère cependant, Milord, que quand je vous déclare que je ne peux les accepter, vous n'insisterez pas pour que je vous en explique les raisons. » Lord Fellamar lui répondit par un long discours que nous n'avons pas compris parfaitement, soit qu'en effet il fût dénué de sens, soit qu'il pécha simplement contre les règles de la grammaire. Mais il le termina en disant que, si elle avait antérieurement engagé son cœur à quelque gentilhomme, dût-il être malheureux toute sa vie, il se croirait obligé en honneur de se désister de ses prétentions. Peut-être, Milord, appuya-t-il un peu trop emphatiquement sur le mot « gentilhomme », car nous ne pouvons expliquer autrement l'indignation qu'il inspira à Sophie, qui, dans sa réponse, parut vivement offensée. Tandis qu'elle parlait d'un ton de voix plus élevé que de coutume, Mrs. Weston entra, les joues enflammées de colère et le feu jaillissant de ses yeux comme des éclairs. « Je suis honteuse, dit-elle, Milord, de la réception qu'on vous a faite. Je vous assure que nous sommes tous sensibles à l'honneur que vous avez bien voulu nous faire. Je dois vous dire, Miss Weston, que la famille attend de vous une conduite toute différente. » Ici, Milord intercéda en faveur de la jeune personne, mais ce fut sans succès. L'attente continua jusqu'à ce que Sophie, après avoir tiré son mouchoir de sa poche, se fût jetée dans un fauteuil en versant un torrent de larmes. Le reste de la conversation entre Mrs. Weston et Milord, jusqu'à ce que ce dernier se retirât, se passa du côté de Milord en lamentations amères et du côté de Mrs. Weston en assurances très positives que sa nièce consentirait, et même volontairement, à tout ce qu'il désirait. « Il faut convenir, Milord, ajouta-t-elle, que cette petite fille a eu une sotte éducation, aussi peu digne de sa fortune que de sa naissance. » Son père, je suis fâché de le dire, mérite toutes sortes de reproches. La petite a des notions de timidité si niaises, si provinciales. Si ce n'est que cela, Milord, sur mon honneur, je suis convaincu qu'au fond elle a du sens et qu'on la ramènera aisément à la raison. » Ces dernières phrases furent dites en l'absence de Sophie, car elle avait quitté depuis quelque temps le salon, avec plus d'apparence de colère qu'elle n'en avait encore montré en aucune autre occasion. Alors, après les plus vives expressions de reconnaissance envers Mrs. Weston, les plus ardentes protestations d'un amour dont rien ne pouvait triompher, et mille promesses de persévérance que Mrs. Weston encouragea fortement, Milord prit congé et sortit. Avant de raconter ce qui se passa ensuite entre Mrs. Weston et Sophie, il peut être à propos de rapporter un accident malheureux qui était arrivé et avait occasionné le retour de Mrs. Weston dans cet état de fureur où nous l'avons vu. Le lecteur saura donc que la femme de chambre qui servait alors Sophie avait été recommandée par Lady Bellaston, chez laquelle elle avait demeuré quelque temps en qualité de coiffeuse. C'était une fille d'esprit, et elle avait reçu les instructions les plus sévères de surveiller très soigneusement sa jeune maîtresse. Ces instructions, nous sommes fâchés de le dire, lui avaient été données par Mrs. Honora, dans les bonnes grâces de laquelle Lady Bellaston était parvenue si avant que la vive affection que cette bonne femme de chambre avait eue autrefois pour Sophie était totalement effacée par le grand attachement qu'elle avait pour sa nouvelle maîtresse. Or, dès que Mrs. Miller fut sortie, Betty, c'était le nom de la nouvelle femme de chambre de Sophie, trouva en rentrant dans la chambre sa jeune maîtresse occupée, très attentivement, à lire une longue lettre. L'altération visible de ses traits aurait suffi pour autoriser le soupçon que cette fille conçut. mais ils avaient encore un fondement plus solide, car elle avait entendu toute la scène qui s'était passée entre Sophie et Mrs. Miller. Mrs. Weston fut instruite de tout par Betty, qui, après avoir reçu beaucoup de compliments et même quelques récompenses de sa fidélité, eut l'ordre de faire entrer chez Mrs. Weston la femme qui avait apporté la lettre en cas qu'elle revînt. Malheureusement, Mrs. Miller revint au même moment que Sophie était en discussion avec Milord. Betty, suivant l'ordre qu'elle en avait reçu, l'introduisit sur le champ chez Mrs. Weston, qui, parfaitement instruite d'une foule de circonstances relatives à ce qui s'était passé la veille, fit aisément accroire à la pauvre femme que Sophie lui avait tout dit, et tira d'elle par ce moyen tout ce qu'elle savait concernant la lettre et concernant Jones. Cette pauvre créature pouvait s'appeler la simplicité même. Elle était dans cette classe de gens qui sont toujours prêts à croire tout ce qu'on leur dit, à qui la nature n'a donné ni armes défensives, ni armes offensives en fait d'imposture, et qui sont conséquemment exposés à être trompés par quiconque veut faire simplement la dépense d'un petit mensonge pour y réussir. Mrs. Weston, après avoir tiré de Mrs. Miller tout ce qu'elle savait, ce qui n'était en effet que bien peu de choses, mais était suffisant pour lui en faire soupçonner beaucoup, la renvoya, en l'assurant que Sophie ne la verrait pas, qu'elle ne répondrait pas à la lettre, et n'en recevrait pas d'autre. Elle ne la laissa pas partir sans lui avoir fait un beau sermon sur la honte d'un métier auquel elle ne pouvait donner un autre nom que celui d'entremetteuse. Cette découverte avait déjà beaucoup altéré sa bonne humeur, lorsqu'entrant dans la pièce voisine de celle où étaient Lord Fellamar et Sophie, elle entendit sa nièce protestant avec beaucoup de chaleur contre les persécutions de Milord. Sa rage, qui fermentait déjà, éclata alors, et elle se précipita dans l'appartement de sa nièce avec cet excès de fureur dont nous avons rendu compte. Lord Fellamar ne fut pas plus tôt sorti que Mrs. Weston rentra chez Sophie, à laquelle elle reprocha amèrement le mauvais usage qu'elle avait fait de sa confiance en elle et la perfidie qu'elle avait employée pour recevoir des lettres d'un homme avec lequel, la veille seulement, elle avait voulu s'engager par le serment le plus solennel à ne plus jamais avoir de correspondance. Sophie protesta qu'elle n'avait pas continué une semblable correspondance. « Comment, comment, Miss Weston ?» dit la tante. « Voulez-vous nier que vous ayez reçu hier une lettre de lui ?»«
Une lettre, madame ?» répondit Sophie, un peu surprise.
« Il n'est pas très poli, miss, reprit la tante, de répéter mes propres paroles. « Je dis une lettre, et j'insiste pour que vous me la montriez sur le champ. « Je dédaigne le mensonge, madame, dit Sophie. J'ai en effet reçu une lettre, mais c'était sans que je l'eusse désiré, et je puis même dire sans mon consentement. Assurément, miss, s'écria la tante, assurément, vous devriez rougir d'avouer que vous en ayez reçu. Mais où est la lettre, car je veux la voir.
Sophie hésita un moment avant de répondre à cette demande positive, et finit par ne trouver d'autre excuse que de déclarer qu'elle n'avait pas la lettre dans sa poche, ce qui était littéralement vrai.
Sa tante, perdant alors toute patience, lui dit sèchement, « Êtes-vous résolue, oui ou non, à épouser Lord Fellamar ?» Elle ne répondit à cette question que par la négative la plus énergique. Mrs. Weston répliqua par un serment, ou quelque chose qui y ressemblait beaucoup, que le lendemain, de bon matin, elle la remettrait entre les mains de son père. Sophie alors se mit à raisonner avec sa tante de la manière suivante. « Pourquoi, madame, faut-il nécessairement que je sois forcée à me marier ?»« Considérez combien cette nécessité vous aurait paru cruelle à vous-même, et combien vos parents ont été plus doux en vous laissant votre liberté à cet égard. Qu'ai-je donc fait pour perdre cette liberté ? Je ne me marierai jamais sans avoir obtenu le consentement de mon père et sans vous demander le vôtre. Et quand je demanderai ce consentement à l'un ou à l'autre, pour un objet qui en sera reconnu indigne, ne sera-t-on pas alors assez à temps de me contraindre à en épouser un autre ? Puis-je supporter ce discours, s'écria Mrs. Weston, de la part d'une fille qui a maintenant dans sa poche la lettre d'un assassin ?
Je vous proteste, répondit Sophie, que je n'ai point de pareille lettre. Et s'il est un assassin, il ne sera bientôt plus dans le cas de vous donner de l'inquiétude. « Comment, Miss Weston, dit la tante, avez-vous l'audace de parler de lui de cette manière et de m'avouer en face votre amour pour un tel scélérat ?»«
Assurément, madame, dit Sophie, vous interprétez mes paroles d'une manière très étrange. »
Miss Weston, je vous proteste que je suis décidée à ne pas souffrir plus longtemps votre manière d'être avec moi. C'est de votre père que vous avez appris à me traiter ainsi. C'est lui qui vous a enseigné à me donner un démenti. Il vous a totalement perdu par son faux système d'éducation, et grâce au ciel, il aura la consolation d'en recueillir les fruits. Car je vous déclare encore une fois que je vous renverrai à lui demain matin. Je retirerai toutes mes troupes du champ de bataille. Et comme le sage roi de Prusse, je resterai dorénavant dans un état de neutralité parfaite. Vous êtes tous deux trop sensés pour avoir besoin d'être gouvernés par moi. Ainsi donc, faites vos préparatifs, car demain matin, vous évacuerez cette maison. »
Sophie lui fit toutes les représentations possibles, mais sa tante fut sourde à tout ce qu'elle dit.
Nous la laisserons donc, pour le présent, dans son opiniâtreté. D'autant plus que nous ne voyons pas d'espoir de l'amener à changer de sentiment. Chapitre 9. Ce qui arriva à M. Jones dans sa prison. M. Jones avait passé seul plus de 24 heures bien tristes, excepté les moments où Partridge était venu lui tenir compagnie, lorsque M. Nightingale revint. Non que ce digne jeune homme eût abandonné ou oublié son ami, car il avait employé la plus grande partie de ce temps-là à le servir. Ces informations l'avaient conduit à apprendre que les seules personnes qui eussent vu le commencement de la malheureuse rencontre étaient une troupe de matelots attachés à un vaisseau de guerre alors à Deptford. Il alla donc à Deptford pour les y trouver. Mais lorsqu'il fut arrivé à bord du vaisseau, on lui apprit que les hommes qu'il cherchait étaient tous à terre. Il les suivit à la piste de place en place, et enfin il en trouva deux buvant ensemble avec une troisième personne dans un mauvais cabaret près Aldersgate. Nightingale désira parler à Jones en particulier, car Partridge était dans la chambre quand il entra. Aussitôt qu'ils furent seuls, Nightingale, prenant Jones par la main, lui dit « Allons, mon brave ami, ne vous laissez pas trop abattre par ce que je viens vous dire. Je suis fâché d'être un messager de mauvaises nouvelles, mais je crois de mon devoir de vous les dire. »
« Je devine quelles sont ces mauvaises nouvelles, » répondit Jones. « Le pauvre gentilhomme est donc mort. »«
J'espère que non. Il était encore vivant ce matin, quoique je ne veuille pas vous flatter, car je crains, d'après les informations que j'ai prises, que sa blessure ne soit mortelle. Si l'affaire est exactement comme vous me l'avez raconté, quoi qu'il puisse arriver, vos propres remords sont tout ce que vous aurez à craindre. Mais pardonnez-moi, mon cher Jones, si je vous conjure de dire à vos amis ce qu'il y a de plus fâcheux dans votre histoire. Si vous nous déguisez quelque chose, c'est de vous-même et de vous seul que vous aurez été l'ennemi.
« Quelle raison, mon cher Jack, vous ai-je jamais donné, dit Jones, de me percer le cœur par un si cruel soupçon ?»«
Patience, continua Nightingale, et je vous dirai tout. »
Après les recherches les plus actives, j'ai enfin rencontré deux hommes qui se sont trouvés présents à ce malheureux accident. Et j'ai la douleur de vous dire qu'ils ne racontent pas l'histoire si fort à votre avantage que vous l'avez racontée vous-même.
Que disent-ils donc?
Je suis véritablement aussi fâché de le répéter qu'effrayé des conséquences qui peuvent en résulter pour vous. Ils disent qu'ils étaient à une trop grande distance pour avoir entendu le sujet de la querelle. Mais tous deux s'accordent à soutenir que le premier coup a été donné par vous.
Eh bien, sur le salut de mon âme, il me calomnie. Non seulement il m'a frappé le premier, mais il m'a frappé sans la moindre provocation de ma part. Qui peut donc engager ces malheureux à m'accuser faussement?
C'est ce que je ne peux deviner. Et si vous, vous-même et moi, qui suis sincèrement votre ami, ne pouvons concevoir la raison pour laquelle ils vous donnent ainsi un démenti, quelle raison un tribunal, toujours impassible, pourra-t-il donner pour ne pas les croire? Je leur ai répété ma question à plusieurs reprises. Ainsi l'a fait cette autre personne qui était présente, que je crois être un marin, et qui réellement semblait s'intéresser très vivement à vous, car il les engagea plus d'une fois à considérer qu'il s'agissait de la vie d'un homme en cette circonstance, et ne se lassa pas de leur demander
s'ils étaient bien certains de ce qu'ils avançaient. À quoi ils ont répondu tous deux qu'ils en étaient très certains et qu'ils étaient prêts à appuyer leur témoignage par serment. Au nom du ciel, mon cher ami, rappelez-vous bien tout ce qui s'est passé, car si ce qu'ils disent se trouve être vrai, vous sentez qu'il n'y a pas de temps à perdre pour tirer le meilleur parti de votre situation présente. Je ne voudrais pas vous affliger, mais vous connaissez sans doute la sévérité de la loi, quelques provocations verbales que l'on ait pu vous faire. Hélas, mon ami, quel intérêt peut avoir un malheureux comme moi de rester sur la terre? Pensez-vous d'ailleurs que je puisse souhaiter de vivre avec la réputation d'un assassin? Quand j'aurai encore des amis, et je n'en ai plus, hélas, pourrais-je avoir le front de les solliciter de parler en faveur d'un homme condamné pour le crime le plus noir qui soit dans la nature? Croyez-moi, je n'ai pas cette espérance, mais j'ai quelque confiance dans un tribunal supérieur de beaucoup à celui-ci-bas, et j'ai l'assurance d'y trouver toute la protection que je mérite. Il finit par les protestations les plus solennelles et les plus énergiques qu'il avait dit la vérité dans tout ce qu'il avait avancé. La confiance de Nightingale fut de nouveau ébranlée et commençait même à pencher en faveur de son ami quand Mrs. Miller parut et fit un rapport fâcheux du mauvais succès de son ambassade. Jones ne l'eut pas plus tôt entendu qu'il s'écria fort héroïquement « À présent, mon ami, je suis totalement indifférent sur ce qui peut arriver, au moins sous le rapport de ma vie. Et si c'est la volonté du ciel que j'expie ainsi le sang que j'ai versé, j'espère que la bonté divine permettra un jour que mon honneur soit reconnu, et qu'au moins les paroles d'un mourant inspireront assez de confiance pour justifier sa mémoire. » Il se passa alors une scène extrêmement triste entre le prisonnier et ses amis. Mais comme peu de lecteurs auraient probablement désiré de s'y trouver présents, il en est aussi peu, je crois, qui puissent désirer de l'entendre raconter en détail. Nous passerons en conséquence à l'arrivée du geôlier, qui annonça à Jones qu'une dame désirait lui parler quand il en aurait le loisir. Jones témoigna sa surprise de ce message. Il dit qu'il ne connaissait aucune dame du monde dont il pût espérer de recevoir la visite dans le lieu où il était. Cependant, comme il n'avait pas de motif pour refuser de voir qui que ce fût, Mrs. Miller et M. Nightingale prirent sur le champ congé de lui et il donna ordre de faire entrer cette dame. Si Jones fut surpris qu'on lui eût annoncé la visite d'une dame, combien ne le fut-il pas davantage quand il la reconnut pour être Mrs. Waters? Nous le laisserons donc un moment dans cet état d'étonnement, ne fût-ce que pour donner au lecteur le temps de revenir de sa surprise, car probablement il en aura aussi éprouvé beaucoup à l'arrivée de cette dame. Qui était cette Mrs. Waters? Le lecteur le sait assez. Et ce qu'elle était à présent, voilà ce dont il faut qu'il soit complètement instruit. Il voudra donc bien se souvenir que cette dame partit d'Upton dans la même voiture que M. Fitzpatrick et un autre gentilhomme irlandais et qu'elle alla avec eux jusqu'à Bath. Or, il y avait à cette époque un certain emploi vacant dans la maison et à la disposition de M. Fitzpatrick. Je veux dire celui de sa femme, car la dame qui avait autrefois occupé cet emploi avait résigné, ou tout au moins en avait abandonné les fonctions. M. Fitzpatrick, ayant en conséquence examiné avec beaucoup d'attention Mrs. Waters pendant le voyage, l'avait trouvée extrêmement propre à remplir cette place. À son arrivée à Bath, il la lui conféra sur le champ, et elle l'accepta sans scrupule. Tout le temps qu'ils restèrent à Bath, ils vécurent comme mari et femme, et comme mari et femme, ils arrivèrent ensemble à Londres. Soit que M. Fitzpatrick fût trop sage pour quitter une bonne chose avant de s'en être assuré une meilleure, ce dont il commençait seulement alors à entrevoir l'espérance, soit que Mrs. Waters eût si bien rempli son emploi qu'il eut le projet de la garder en chef et de ne faire de sa femme, ce qui arrive souvent, que sa lieutenante, il est certain qu'il ne lui en parla jamais, qu'il ne lui communiqua jamais la lettre qu'il avait reçue de sa tante et ne lui fit jamais une seule fois mention du dessein où il était de la reprendre. Il lui avait encore beaucoup moins prononcé le nom de Jones, car quoi qu'il pensât à se battre avec lui partout où il le rencontrerait, il n'imite à point ces personnages prudents qui pensent qu'une femme, une mère, une sœur, ou quelquefois même une famille tout entière, sont les seconds sur lesquels on peut compter le plus sûrement dans ces sortes d'occasions. La première nouvelle qu'elle apprit de tout cela lui en fut donnée par lui-même, après qu'il eût été rapporté chez lui de la taverne où sa blessure avait été pansée. Cependant, comme M. Fitzpatrick n'avait jamais eu le talent de raconter une histoire de façon bien claire, et comme il était ce jour-là peut-être encore plus obscur que de coutume, ce ne fut que quelque temps après qu'elle découvrit que le gentilhomme qui lui avait fait cette blessure était le même de qui elle en avait reçu une, qui, quoiqu'elle ne fût pas mortelle, était cependant si profonde qu'elle avait laissé après elle une cicatrice considérable. Mais elle ne fut pas plutôt informée que M. Jones était celui qui avait été mis à Gatehouse pour cet assassinat supposé, qu'elle saisit la première occasion de confier M. Fitzpatrick aux soins d'une garde et se hâta d'aller visiter le vainqueur. Elle entra dans la chambre de Jones avec un air de gaieté qui fut aussitôt réprimé par l'aspect mélancolique du pauvre Jones qui tressaillit en la voyant. « Je ne m'étonne pas de votre surprise, lui dit-elle. Je crois que vous ne vous attendiez pas à me voir. Peu de prisonniers reçoivent ici des visites de femmes, à moins que ce ne soit de la leur. Vous voyez le pouvoir que vous avez sur moi, Monsieur Jones. » J'étais loin de penser, en nous séparant à Hampton, que notre première entrevue aurait lieu dans un endroit tel que celui-ci. « Assurément, madame, dit Jones, je dois vous rendre grâce de cette visite. Peu de gens suivent le malheureux, surtout dans ces affreuses demeures. » Je vous assure, monsieur Jones, dit-elle, que j'ai peine à me persuader que vous soyez le même agréable jeune homme que j'ai vu à Hampton. Votre visage est plus triste que toutes les prisons de l'univers. Que peut-il donc vous être arrivé? Je croyais, madame, dit Jones, que sachant que j'étais ici, vous en saviez aussi la malheureuse cause. Je sais que vous avez fait une petite piqûre à un homme en vous battant en duel, voilà tout. Jones témoigna quelque indignation de cette légèreté et parla avec la douleur la plus profonde de ce qui s'était passé. Elle lui répondit, « Eh bien donc, monsieur, si vous prenez cette affaire si forte à cœur, je vais bien vous rassurer. Le gentilhomme n'est pas mort, et je suis à peu près sûr qu'il n'est pas en danger de mourir. Le premier chirurgien qui l'a pansé était un jeune homme, qui avait intérêt de faire croire la blessure aussi dangereuse qu'il était possible, afin de se faire plus d'honneur par sa guérison. Mais le chirurgien du roi l'a vu depuis, et assure qu'à moins d'une fièvre dont il n'aperçoit aucun symptôme quant à présent, il ne craint absolument rien pour sa vie. » À ce récit, Jones laissa voir sur son visage la plus grande satisfaction. Mrs. Waters, s'en apercevant, affirma la vérité de ce qu'elle avait dit et ajouta, « Par le hasard le plus extraordinaire du monde, je loge dans la même maison, et j'ai vu ce gentilhomme. Je vous assure qu'il vous rend justice, et dit que, quelles qu'en soient les conséquences, c'est lui qui a été entièrement l'agresseur, et qu'il n'y a pas le moindre reproche à vous faire. » Jones témoigna la joie la plus vive de la nouvelle que Mrs. Waters lui apportait. Il l'instruisit alors de beaucoup de choses qu'elle savait aussi bien que lui, comme de ce qu'était M. Fitzpatrick, de ce qui avait donné lieu à son ressentiment, etc. Il lui raconta aussi plusieurs faits qu'elle ignorait absolument, comme l'aventure du manchon et d'autres particularités, lui taisant seulement le nom de Sophie. Il déplora ensuite les folies et les fautes de toute espèce dont il s'était rendu coupable. Chacune d'elles, disait-il, ayant été suivie de conséquences si funestes qu'il serait tout à fait impardonnable s'il ne se tenait pas pour bien averti, et ne renonçait pas désormais à cette coupable conduite. Il termina en lui annonçant sa résolution d'être plus sage à l'avenir, de peur qu'il ne lui arrivât quelque chose de plus fâcheux encore. Mrs. Waters s'amusa beaucoup à tourner tous ses beaux sentiments en ridicule, les regardant, disait-elle, comme les effets du chagrin et de la solitude. Elle répéta quelques vieilles plaisanteries sur le diable quand il fut malade, etc., et dit qu'elle ne doutait pas de le voir bientôt, libre et aussi gai qu'auparavant. « Je ne mets pas même en question, ajouta-t-elle, si votre conscience sera bientôt délivrée de tous ces scrupules qui ne font que vous rendre malade. » Elle lui dit beaucoup d'autres choses de ce genre,
dont quelques-unes ne lui feraient pas grand honneur dans l'opinion de quelques lecteurs si nous les rapportions. Nous ne sommes pas même tout à fait sûrs que les réponses faites par Jones ne fussent pas tournées en ridicule par d'autres. En conséquence, nous supprimerons le reste de cette conversation et nous nous contenterons d'observer qu'elle se termina en toute innocence, beaucoup plus à la satisfaction de Jones que de Mrs. Waters. Car le premier était transporté des nouvelles qu'elle lui avait apportées, mais la dame n'était pas tout à fait si charmée de la conduite repentante d'un homme dont, à la première entrevue, elle avait conçu une opinion toute différente de celle qu'elle était obligée d'en prendre en ce moment. Ainsi se trouva presque entièrement dissipée la tristesse qu'avait occasionné le rapport de M. Nightingale. Mais l'abattement causé par celui de Mrs. Mellah subsistait toujours. Son récit cadrait tellement avec les expressions de la lettre de Sophie qu'il ne doutait pas un moment qu'elle n'eût montré la sienne à sa tante et n'eût pris la ferme résolution de l'abandonner. Les tourments que cette pensée lui causa ne pouvaient être égalés que par ceux que lui fit souffrir une nouvelle calamité que la fortune lui réservait encore et que nous communiquerons au lecteur dans le second chapitre du livre suivant.